Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace avec notre invité André Braik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome, professeur à l'Université Paris 7 Denis Diderot et vous travaillez au laboratoire CEA Saclay que vous avez contribué à créer. Vous êtes aussi membre de l'équipe imagerie Cassini qui tourne en ce moment autour de Saturne après avoir été membre de l'équipe imagerie Voyager. Saturne, André Braik, dont on va parler et en particulier d'une image qui nous a tous beaucoup marqué, qui montre une espèce de gigantesque cyclone au pôle sud de Saturne. Alors, par rapport à Jupiter, on pensait que Saturne était une planète calme. En fait, on s'était trompé.
Oui, tout à fait. Alors, Saturne est un monde tout à fait passionnant. Le fait que nous tournions autour pendant plusieurs années nous permet de voir un certain nombre de phénomènes qu'on ne peut pas voir quand on le survole rapidement, comme l'avait fait la sonde Voyager. Et je dirais, pour paraphraser certains grands magasins, il n'y a pas un jour sans que nous fassions une découverte. Alors, la découverte que vous signalez, c'est effectivement la découverte d'un immense cyclone qui est au pôle sud de Saturne. Et ceci a un double intérêt. Premier intérêt, c'est un phénomène tout à fait nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant sur notre planète. Et deuxième intérêt, ça ressemble beaucoup à certains phénomènes terrestres. Donc, à la fois, c'est une avancée de la connaissance. Où on voit des choses nouvelles, et en même temps, ça nous permet de faire une comparaison avec la Terre. Alors, il y a des choses semblables, il y a des choses différentes. Qu'avons-nous vu ? Eh bien, nous avons vu une rotation d'un immense, si j'en parle des thèmes savants, je dirais une immense cellule de convection, c'est-à-dire quelque chose qui monte comme quand vous faites chauffer bouillir votre eau le matin pour votre thé. Eh bien, on a vu quelque chose qui ressemble à un cyclone sur Terre, avec des murs verticaux, ça on ne l'avait jamais vu auparavant, au-dessus du pôle sud, avec des vents qui soufflent à 550 km à l'heure sur les côtés. Et le phénomène semblable sur Terre, c'est celui du cyclone, où on sait que naissent des ouragans au large des côtes africaines, que ceci se déplace le long de l'Atlantique, arrive dans les Caraïbes et provoque, pas toujours heureusement, un cyclone avec des murs verticaux, avec des vents extrêmement puissants qui tournent autour et avec des pluies abondantes sur le côté. Alors la différence avec la Terre, c'est qu'il n'y a pas d'océan liquide en dessous, qui dans le cas de la Terre joue un rôle important, et que d'autre part l'objet ne se déplace pas, on l'a vu au pôle sud de Saturne. La chose intéressante, c'est que l'objet n'existait pas avant, et vient d'apparaître. Autrement dit, nous nous posons la question de la permanence. Est-ce que ça va durer pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années ? Et de toute manière, il s'est créé une structure ressemblant par beaucoup de côtés à ce qui se passe sur Terre, mais avec une hauteur beaucoup plus grande, des vents beaucoup plus violents, une dimension beaucoup plus grande. Donc on va voir si nos modèles terrestres s'appliquent à cet objet, même si les conditions de formation sont un peu différentes. Et c'est ça qui est merveilleux. Phénomène nouveau, on ne l'avait jamais vu sur Jupiter. Et autre point important, c'est que Saturne nous paraissait très calme, pour deux raisons. La première, c'est quand on regarde Saturne, aussi bien avec une lunette d'amateur qu'avec une sonde spatiale, on voit d'abord les anneaux et les satellites qui sont très spectaculaires au point d'en oublier la planète. Et la deuxième raison, c'est que Saturne pourrait ressembler par certains côtés à Londres un jour de brouillard, c'est-à-dire que quand vous regardez la couche, c'est un petit brouillard, on voit pas grand-chose, mais quand vous regardez à travers le brouillard ce que nos instruments peuvent faire, et de temps en temps le brouillard se lève, vous voyez au contraire des éléments déchaînés. Les vents à l'équateur de Saturne soufflent à 1800 km/h. Les tempêtes bretonnes à côté, c'est un doux zéphyr. Les cyclones, les ouragans, les tempêtes, les orages, tout ça éclate sans arrêt. À un instant donné sur Saturne, il y a une vingtaine d'ouragans, d'orages qui éclatent. Ce n'est pas le cas sur Terre. Et ces objets ont des dimensions bien supérieures. Certains des orages sont plus gros que la Terre elle-même. Donc on voit un monde qui est déchaîné, qui est actif, qui bouge sans arrêt, et qui évidemment est une source de découverte avec tout ce qu'on observe.
Alors on a du mal à comprendre que, arrivant dans la banlieue de Saturne en juillet 2004, Cassini n'ait rien vu, ou en tout cas n'ait pas vu l'amorce de ce cyclone. Quand même, vous dites 8000 km, c'est pas rien. Comment se fait-il qu'on n'ait rien vu, et comment se fait-il qu'on n'ait même pas vu la naissance ou la création de cette perturbation ?
Ça illustre bien le fait qu'avec la sonde Cassini, la sonde fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle est programmée et elle observe. Et il y a une quantité d'observations que nous devrions faire que nous ne pouvons pas faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a à bord de la sonde 12 instruments. Il y a des instruments optiques, infrarouges, ultraviolets, radars, les particules qui ont le champ électrique, le champ magnétique, je ne vais pas énumérer tout cela. Et donc, par exemple, quand on utilise le radar pour étudier la surface d'un satellite, on ne peut pas utiliser la caméra. Pour deux raisons, c'est que les deux engins sont de deux côtés de la caméra, d'une part, et d'autre part, l'énergie qu'on prend pour faire fonctionner l'un ou l'autre, on peut pas l'utiliser, on peut pas les faire fonctionner tous les deux en même temps, on n'aura pas assez d'énergie. Donc, d'une certaine manière, on ne peut faire fonctionner en général qu'un seul instrument à un instant donné. D'autre part, il y a plein d'objets à regarder. Il y a la planète Saturne elle-même, il y a les anneaux, il y a les satellites. On a envie de tout regarder en même temps. Et enfin, la sonde, elle obéit les lois de Newton, elle tourne autour de Saturne. De temps en temps, elle est proche, mais de temps en temps, elle est du mauvais côté, elle est du côté nuit, elle est loin. Quand on veut survoler Titan, on n'est pas au-dessus du pôle sud de Saturne. Et donc, ces contraintes liées à la trajectoire, liées à l'énergie à bord de la sonde, liées aux instruments qu'il y a et liées aux priorités scientifiques font que nous ne pouvons observer savez qu'un petit moment. Je vous donne un exemple. Dans les 4 ans de la mission nominale, c'est-à-dire 2004-2008, nous allons prolonger la mission, ce qui est une excellente nouvelle récente. On va continuer jusqu'en 2010 et même on espère de continuer jusqu'en 2014 ou 2015. Ça, c'est fantastique. Et la fac m'aura mis à la porte avant l'université m'aura mis à la porte, avant même que la sonde de Cassini s'arrête. Heureusement que le CNES me soutient. Donc, on va continuer cette mission. Eh bien, nous n'aurons fait en 4 ans que 10% de la liste que nous souhaitions observer. Je ne parle pas des nouveautés. Donc, avant d'arriver en 2004, on dit voilà, on voudrait voir ça, on a fait la liste. Et on a fait le programme, et sur 4 ans, on peut en faire 10% seulement. Ce qui montre bien l'illustration, c'est que la Terre elle-même, qui est beaucoup plus petite que Saturne, qui n'a pas plein de satellites, qui n'a pas d'anneaux, donc je ne dis pas qu'il est moins riche, mais en fait, il y a moins de choses à regarder autour de la Terre. Nous avons déjà lancé des centaines de satellites. Il y a des milliers de scientifiques qui ont parcouru la Terre. Nous sommes encore loin de la connaître complètement. Donc, nous sommes au tout début. Voilà pourquoi on n'a pas tout vu.
Revenons, André Braik, sur cette observation particulière du cyclone. Vous nous avez dit qu'on pouvait l'assimiler à l'image et l'idée d'un cyclone sur la Terre, sauf qu'il n'y a pas d'eau a priori, il n'y a pas d'océan en tout cas à la surface de Saturne, c'est une planète gazeuse. Quelles sont actuellement les hypothèses? Quel pourrait être le moteur de cette gigantesque machine?
Bon, pour faire démarrer un tel cyclone, il faut obéir à deux conditions. Il faut que ce soit chaud en dessous, et il faut que l'énergie se transporte vers le haut, en gros par la convection. Tout le monde sait qu'il y a trois manières de transporter l'énergie, la conduction, le rayonnement, la convection. La conduction, c'est que les atomes vibrent, et en vibrant, se transmettent leur vibration l'un à l'autre. Comme je dis en plaisantant aux étudiants, quand vous êtes dans un métro à 6 heures le soir, tous serrés, s'il y en a un qui se gratte, normalement tout le monde vibre dans le wagon du métro, parce qu'il transmet ses vibrations aux autres. Ça, c'est la conduction. Alors, cette mode de transmission de l'énergie, ça marche dans un solide. C'est comme ça que les solides sont chauffés, c'est comme ça que les corps extrêmement denses. Le rayonnement, tout le monde sait que quand on passe sous une source infrarouge, quand vous êtes au soleil, quand le soleil brille, il fait chaud, simplement. Donc, le rayonnement chauffe, tout simplement. Et enfin, la convection, c'est quand on fait chauffer de l'eau, c'est au-dessus d'un radiateur, la masse d'air monte elle-même et se refroidit en montant et réchauffe l'environnement. Donc il faut un moment de convection. Alors ça, c'est des choses qu'on étudie en physique assez facilement, regarde les conditions qui règnent. Si le milieu est stable, il ne peut pas y avoir de convection, c'est le rayonnement qui transmet la chaleur. Si le milieu est instable, il y a convection, on transmet la chaleur. Donc il faut réunir à la base du cyclone, à la base de la formation, les conditions qu'il faut pour. Alors ça, on est en train d'étudier justement quelle est la pression, la densité, la température, etc. Et enfin, autre condition, il faut que ça tourne. Et pour que ça tourne, il y a un effet qui joue un rôle essentiel dans cette affaire, ce qu'on appelle l'effet Coriolis, du nom d'un physicien qui a trouvé ça il y a déjà un petit moment. Donc l'effet Coriolis sur Terre, nous le connaissons bien, nous savons que si vous tirez un boulet de canon sur une distance suffisamment longue, eh bien la rotation de la Terre joue un rôle. Nous savons que, l'histoire dans les baignoires ou dans les éviers, ça tourne dans un certain sens. Nous savons que les cyclones sur Terre ne tournent pas dans le même sens, dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. À cause de cet effet. Donc cet effet joue un rôle important, et d'autant plus important que la planète tourne très vite sur elle-même. C'est le cas de Saturne. Saturne tourne sur elle-même en 10 heures. Voilà un monstre, Saturne, qui a 120 000 km de diamètre, à comparer aux 12 000 km de la Terre. Donc il est 10 fois plus gros que la Terre, et objet qui tourne sur lui-même en 10 heures. C'est très rapide, alors que la Terre elle-même tourne en 24 heures. Il n'y aura pas un effet Coriolis important sur Vénus, ou sur Mercure, ou sur le Soleil, objet qui tourne très lentement sur eux-mêmes, en plusieurs jours, en plusieurs centaines de jours, dans le cas de Vénus. Par contre, la Terre en 24 heures, l'effet Coriolis est important, mais la Terre est relativement petite. Saturne tournée en 10 heures, un monstre pareil, là, l'effet Coriolis est essentiel. Donc la combinaison de la convection et de l'effet Coriolis permet de déclencher le phénomène. Cela dit, ça ne se déclenche pas toujours à tous les endroits, il faut comprendre pourquoi. Et à partir du moment où ça se déclenche, on a un très bon sujet d'expérimentation, on comprend mieux le rôle de l'effet Coriolis quand il est plus rapide comme ça, et on comprend mieux le rôle de la convection quand elle est favorisée en quelque sorte. Donc on peut isoler les phénomènes alors que sur Terre ils sont mélangés, c'est ça l'intérêt.
Alors nous qui vivons sur une planète tellurique, on a toujours beaucoup de mal à imaginer ce à quoi peut ressembler une planète gazeuse. Est-ce qu'on a une idée, si on descendait lentement à partir de l'orbite à laquelle se trouve Cassini, quel paysage on verrait en descendant en direction de Saturne? Oui, qu'est-ce qu'on traverserait?
J'ai envie de dire que, plutôt que les paysages, quelle douleur vous ressentiriez. Parce que les paysages, très vite, on ne verrait plus rien. Mais je peux vous décrire ce qu'il y a. Et ça, on le connaît très bien. Pourquoi on le connaît très bien? Parce que maintenant, avec Cassini, on a lancé une sonde qui tourne autour de Saturne. Cette sonde tournante sur Saturne devrait, si Saturne était un point de matière, suivre une ellipse de Kepler, comme on l'a trouvé en 1610 avec Kepler. Et en fait, la trajectoire de Cassini est un petit peu perturbée. Il y a des bosses et des creux. Et les bosses et des creux nous donnent l'information sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, nous avons une très bonne vision de la structure interne de Saturne. Alors, je vais faire l'inverse, je vais partir du centre. Et puis, on va aller à la surface si on veut te remonter. En un mot, il se passe en Saturne la même chose que quand vous faites une sauce vinaigrette. Vous mettez l'huile et du vinaigre dans un verre. Et puis, si vous les mélangez, ça fait une sauce vinaigrette. Puis, si vous ne mélangez pas, le plus lourd tombe au fond, le plus léger monte à la surface. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé sur Saturne. Les éléments les plus lourds sont tombés au fond. Donc, on peut imaginer qu'au centre de Saturne, il y a un noyau de fer et de nickel, comme au centre de la Terre. Il y a au-dessus des éléments un peu plus, comment dirais-je, denses, je pense.
Solides.
Bien entendu, solides. Silicate, carbonate, etc. Donc, il y a quelque part une croûte solide sur Saturne. À part que Saturne, étant formé 10 fois plus loin du Soleil que la Terre, donc un endroit où il faisait beaucoup plus froid, à ramasser tout l'hydrogène et l'hélium qui étaient présents, et il y en avait beaucoup, puisque l'hydrogène et l'hélium, nous savons que c'est 99% de la matière de l'univers. Donc du côté de la Terre, ça a été éliminé, mais du côté de Saturne, c'est resté. Donc à ramasser une atmosphère était extrêmement épaisse. Tellement épaisse que quand un gaz devient tellement dense, tellement chaud, avec une pression tellement considérable, qu'on ne sait plus si c'est un gaz. Et donc si vous descendiez dans Saturne, eh bien, vous verriez essentiellement, bah, vous êtes dans des nuages d'hydrogène et d'hélium. Vous verrez des nuages un peu de toutes les couleurs. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert. Chaque couleur correspondant à une molécule. Alors quand vous avez de la phosphine pH3, c'est un peu rougeâtre. Quand vous avez du méthane, ça va être un petit peu plus bleuâtre. Quand vous avez, etc. Il y a différentes couleurs qui vont. Puis je ne sais plus les couleurs de chacun, hein, mais vous allez avoir toutes ces couleurs correspondant à des molécules diverses qui se sont formées au bon endroit en quelque sorte. Mais plus on descend, plus la température monte. Donc il y a un endroit. Quand vous êtes en haut de la surface de Saturne, eh bien la température sera de quelque chose comme moins 200 degrés Celsius. Quand vous plongez dedans, elle va monter à moins 100, à moins 50. Il y a un endroit où la température est de 20 degrés, presque agréable. À part qu'on y respire des choses désagréables. Et puis la température va monter, la pression va monter, puis il y a un endroit très rapidement où la pression sera tellement grande que vous allez très vite transformer en une crêpe. Et une vraie crêpe, celle qu'on fait à Brest, pas celle qu'on fait à la gare Montparnasse. Et si vous mettiez même un sous-marin, les sous-marins les plus puissants que nous faisons, je sais pas, dans l'armée française, américaine ou que sais-je, ou anglaise, eh bien le sous-marin serait aplati lui-même comme une crêpe, bien avant d'atteindre cette croûte solide. En quelque sorte qu'il y a quand il y a beaucoup moins d'hydrogène et d'hélium. Et en même temps, on pourrait rêver un petit peu d'un individu qui soit extra-humain, quelque chose, qui résiste à ces pressions, et il verrait à travers les nuages de Saturne une percolation de l'hélium à travers l'hydrogène. C'est-à-dire un petit peu comme une pluie, on peut imaginer comme un conte de fées. C'est-à-dire que là, l'hélium qui est un petit peu plus lourd que l'hydrogène, l'hélium il y a 4 atomes, il y a 4 protons, l'hydrogène il n'y en a qu'un, eh bien l'hélium et l'hydrogène, comme il fait un peu plus froid dans Saturne que dans Jupiter, se séparent et nous avons à Saturne une percolation, une pluie d'hélium à travers l'hydrogène, un petit peu comme dans une machine à café, on verrait le café passer à travers, l'eau passer à travers le mou du café. Donc avec un peu d'imagination, on peut voir cette pluie qui vous entoure, qui brille, etc. Et puis ça va jusqu'à la croûte solide. La croûte solide elle-même, ça fait quelques fois la masse de la Terre et c'est tout petit. Mais si on enlevait par une opération magique tout l'hydrogène et l'hélium qu'il y a sur Saturne, nous retrouvions un objet un petit peu plus gros que la Terre avec une croûte solide, évidemment.
Alors, dans ces mondes de Dante, André Braek, on remarque, en tout cas, ce sont les gens de Cassini qui le disent, qu'il existe, par exemple, des couloirs d'orage. On signale, je crois, à 30 degrés de latitude de l'hémisphère sud, une zone particulièrement agitée où se déchaînent des orages électromagnétiques, on voit des éclairs, etc. Ça aussi, c'est très surprenant.
Oui, alors ça, on a appelé ça l'allée des orages. Hein, parce que là, ça se déchaîne partout. Alors pourquoi cet endroit-là plutôt qu'un autre ? Ben, c'est à nous de le comprendre. Il y a actuellement quelques, j'allais dire une dizaine, non, peut-être un petit peu moins. Il y a 6 ou 7 étudiants qui font un institut de technologie, à l'Université de Cornell, en France aussi, qui démarrent une thèse qui va durer 3 ans pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ils font des modèles, etc. Alors parmi ces orages qui se déchaînent depuis qu'on est arrivé près de Saturne, c'est-à-dire depuis les mois de. On est arrivé autour de Saturne le 1er juillet 2004, mais dès le mois de mars, le mois de février 2004, déjà on voyait des choses intéressantes. Donc depuis cette époque, nous voyons des orages se déchaîner un peu partout, et l'un d'entre eux était particulièrement intéressant. Il a éclaté celui-là entre le mois de février 2004 et le mois de septembre 2004. On l'appelait le dragon. Pourquoi le dragon ? Parce qu'il a une forme effrayante. Et là, on a vu au début quelque chose d'un petit peu gros, une espèce de patate, en quelque sorte un petit peu grosse. On l'a vu se casser en petits morceaux, et puis après, on l'a vu se reconstituer en une figure de dragon. Et quand on regarde comment ça se passe, on a l'impression qu'on a là une clé pour comprendre comment l'énergie est transférée de l'intérieur de Saturne à l'extérieur. Puisque la grosse structure qu'on a vue au début était assez profonde, et puis ensuite tout ce matériau est monté, l'orage est monté, est monté, est monté, et on a une petite clé pour comprendre comment l'énergie est transférée. Et ça c'est important, parce que Saturne renvoie dans l'espace autant d'énergie qu'il en reçoit du Soleil, ce qui n'est pas du tout le cas de la Terre. Et à cause de cette percolation de l'hélium à travers l'hydrogène, qui fournit l'énergie, mais encore faut-il la transférer cette énergie. Et là nous avons une clé pour qu'on sente le transfert. Et une dernière remarque que je ferai, vous avez cité 30 degrés de latitude sud, et pourquoi latitude sud? C'est parce qu'on est arrivé, les anneaux recouvraient du nombre tout l'hémisphère nord. Et actuellement, l'hémisphère nord se dégage et nous commençons à voir, je dirais, le début de l'hiver dans l'hémisphère nord. Et là, on commence à voir que l'hémisphère nord, lui aussi, est le siège de plein d'orages, de plein de tempêtes, plein d'ouragans. On le voit tout juste maintenant. On n'a pas pu le voir avant. L'ombre des anneaux les recouvrait. Et là aussi, il y a une zone passionnante que nous commençons à étudier.
Alors, avant de parler des anneaux dans un second podcast, est-ce qu'on peut conclure sur cette atmosphère, André Braek, en disant que, d'une certaine façon, aujourd'hui, les observations qu'on mène à partir des observations de Cassini sur Saturne sont le début d'une nouvelle science qui s'appellerait la science des atmosphères des planètes géantes ?
Oui, en quelque sorte. Pour moi, Saturne est un véritable laboratoire. Il y a là des phénomènes que nous ne pourrons jamais reconstituer dans nos laboratoires. Ce n'est pas la peine de construire un laboratoire, de nommer un directeur, un sous-directeur, un administrateur. On va sur place, on regarde. Une foule de choses se passent. Premièrement, on se régale sur le simple plaisir de l'œil, le plaisir de la découverte. Et deuxièmement, il y a un travail très sérieux à faire pour comprendre ce qui se passe et, in fine, l'appliquer à la Terre.
Merci André Braic. Vous pouvez évidemment merci retrouver ces images sur le site internet dans le dernier numéro de Ciel Espace. Et puis, on se retrouve pour un nouveau podcast consacré aux anneaux de Saturne.